On retrouve Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
La loi sur les langues officielles n'améliore pas le financement de l'éducation pour l'instant, c'est dans Franco-Presse.
Oui, parce que le comité permanent des langues officielles du Parlement canadien étudie en ce moment le continuum d'éducation en français en milieu minoritaire. Bon, ce que ça veut dire, là, c'est qu'on étudie comment les enfants peuvent étudier en français de la maternelle jusqu'à l'université. La semaine dernière, il y avait des représentants de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick qui sont allés au comité et qui ont rappelé qu'il y a un manque de reddition de compte et de suivi des dépenses fédérales concernant ce qui est alloué au conseil scolaire francophone. Par exemple, en Colombie-Britannique, on affirme que le financement qui est reçu par les conseils scolaires de langue française s'élève à 6 millions de dollars, tandis que le fédéral donne 10 millions de dollars au programme d'immersion. Le conseil scolaire aussi avance qu'il n'y a aucune preuve que la province respecte son obligation d'égaler le financement fédéral pour l'éducation en français. Donc, on sait que le fédéral donne 6 millions de dollars, mais il n'arrive pas à voir si la province donne vraiment 6 millions de dollars aussi. Ce que le milieu de l'éducation demande depuis des années, c'est que les fonds fédéraux arrêtent de transiter par les provinces ou qu'il y ait une meilleure clause de reddition de compte pour que ce soit plus clair d'où vient le financement puis qu'on est sûr que ça se rend bien. Ce sera probablement difficile à mettre en œuvre parce que l'éducation, c'est quand même une compétence provinciale et les provinces y tiennent mordicus. Puis, historiquement, ils ont toujours résisté à l'inclusion de ce genre de clause. Là, ça a été un débat en 2024, pour quand le fédéral a voulu financer les garderies, on n'a pas pu avoir de clause très forte pour la francophonie. Par contre, sans action, les francophones craignent que le poids démographique continue de diminuer. Là, le Nouveau-Brunswick a fait cet avertissement-là devant le comité. Puis j'ajoute en dernier que le commissaire aux langues officielles, justement, hier, a déposé son rapport de mi-parcours pour le plan d'action sur les langues officielles. Puis, dans ce rapport-là, il note le même problème là, de manque de reddition de compte. Puis, il recommande de trouver une façon de mieux suivre les investissements en langues officielles par le fédéral.
On reste toujours dans le même domaine en parlant des langues, des places en garderie qui passent du français à l'anglais. Trois organismes portent plainte, c'est dans l'Acadie Nouvelle.
Il y a eu trois associations francophones du Nouveau-Brunswick qui, oui, ont porté plainte à la fois auprès du commissaire aux langues officielles du Canada et de la province du Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a certaines garderies qui transforment les places destinées aux enfants francophones en places pour les enfants anglophones. Puis lorsque ces places-là sont transformées, la plupart du temps, il n'y a pas de nouvelles places créées pour les francophones ailleurs pour compenser, puis ça entraîne donc une diminution des services pour les francophones. Apparemment, selon les associations qui se plaignent, c'est un phénomène qui se produit régulièrement là, dans toute la province. Il existe quelques raisons pour ce phénomène-là. Premièrement, il y a une population anglophone qui grandit un peu plus rapidement, puis il y a une demande plus importante pour les places en anglais en garderie. Il y a aussi des changements de personnel qui peuvent avoir lieu. Là, si une éducatrice francophone quitte une garderie puis qu'on n'en trouve pas d'autre, qu'elle est remplacée par une anglophone, peut-être que ça peut forcer à changer de place. De plus, il arrive que des garderies francophones accueillent des enfants anglophones et on leur parle en anglais dans ce temps-là, ce qui diminue un peu le service en français pour les autres élèves. L'objectif pour les organismes, c'est donc de protéger les places en français et de protéger la langue française des enfants et des familles. Le gouvernement provincial a été interpellé, puis de leur côté, ils affirment vouloir agir rapidement là-dessus, mais sans créer plus de barrières bureaucratiques. Par contre, quand même, une des solutions qui pourrait être mise en place, c'est de lier les licences d'exploitation des garderies à l'offre en français pour celles qui le font.
Mm-hmm. Préoccupant quand même. Les francophones d'Ottawa enthousiastes et prudents après l'annonce du fonds des grands festivals. Alors, il y a de l'optimisme et aussi un peu de pessimisme ou de l'inquiétude en tout cas.
Oui, c'est déjà la nature un peu de la subvention. C'est un nouveau fonds, une petite initiative de la ville d'Ottawa pour financer des festivals, et puis là, ouvrez les guillemets, ayant le plus fort impact touristique et économique pour la ville. Fermez les guillemets. Le journal Le Droit a parlé à quelques organismes qui organisent des événements francophones, dont le Festival franco-ontarien, là, qui est un des plus gros festivals franco-ontariens, carrément en Ontario. De leur point de vue, c'est une bonne, c'est une possibilité de nouveau financement pour eux, puis c'est une excellente nouvelle. La ville précise, par contre, qu'il n'y aura pas de fonds là-dedans, c'est $1 million, là, et ça, il n'y aura pas de partie réservée spécifiquement pour les événements francophones ou des autres communautés culturelles. L'objectif, c'est vraiment de maximiser les impacts touristiques et économiques. Donc, le droit continue son investigation et on parle à d'autres intervenants comme le Muséoparc de Vanier, qui, eux, organisent un festival des sucres à chaque printemps. Puis, eux, sont enthousiastes de voir cette subvention-là, même s'ils ne sont pas certains que leur événement est assez gros pour se qualifier selon les critères. Il y a la même incertitude du côté de Théâtre Action, qui, eux, organisent des événements théâtraux ambulants. Là, ça a lieu à Ottawa une année sur deux actuellement, et ça touche un moins grand public, donc ils ne sont pas certains que ça va, ils vont pouvoir en profiter non plus. Ce que la Ville dit, c'est que les fonds pour financer l'argent pour financer ce fonds-là va provenir de l'augmentation de 1 point de la taxe municipale sur l'hébergement. Une taxe que quand on loue un hôtel, une chambre d'hôtel à Ottawa, on a cette petite taxe-là à payer, donc elle va augmenter un tout petit peu.
Une bonne nouvelle, le projet de la Maison de la francophonie à Regina avance.
Début novembre, les participants au rendez-vous Francesco ont pu faire la première visite des potentiels locaux de la Maison de la francophonie de Regina. Donc, ce que c'est, ça, c'est une idée qui germe depuis 2021, puis c'est principalement mené par la Société historique francescoise. Ils veulent offrir un lieu de rassemblement pour les francophones d'Arigina. L'idée, c'est surtout d'avoir un nouveau lieu pour entreposer les archives de la Société historique, mais il y aurait aussi un incubateur d'entreprise, des bureaux, un café, une garderie et peut-être un studio de musique ou de danse. On veut créer aussi, on veut pas juste créer de la visibilité pour la francophonie au centre-ville d'Origina, mais on veut aussi contribuer à la revitalisation de ce secteur-là du centre-ville. Puis c'est pas tout le monde qui accueille l'idée avec enthousiasme. Il y a un avocat, Roger Lepage, qui lui trouve que le financement du projet manque un peu de transparence et croit que ce serait mieux d'établir ce genre de centre autour d'un pôle déjà existant pour la francophonie, exemple une école secondaire. Puis l'existence de la Maison de la francophonie, de toute façon, c'est pas certain. Là, c'est pas un projet coulé dans le béton, c'est une intention. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais on espère quand même, du moins les gens qui sont derrière le projet espèrent que ça pourra être lancé en 2026.
Ah oui, l'année prochaine, ça s'en vient quand même assez rapidement. Et on espère que ça se concrétise, évidemment. Finalement, dans l'aurore boréale, on parle aussi de francophonie.
Oui, parce qu'il y a eu des élections au Yukon au début novembre, puis c'est le gouvernement de Currie Dixon du parti du Yukon qui a été élu. Il n'y a pas de grande inquiétude pour la francophonie. Ce n'est pas un gouvernement qui s'est montré opposé à la francophonie, tout au contraire. Mais il y a quand même quelques points que l'association franco-yukonaise veut surveiller. Pour eux, leur priorité, c'est l'enseignement du français au postsecondaire, l'immigration et la santé. Côté de la santé, ça va bien. Là, il y a une nouvelle loi sur l'Office de la santé qui a été créée il y a quelques années au Yukon. Puis M. Dixon a participé à l'élaboration de cette loi-là. Donc, on sait qu'il n'est pas contre et qu'ils ne vont pas y toucher pour l'instant. Cependant, M. Dixon ne prévoit pas réviser la loi sur l'Université du Yukon. Puis ça, c'est une des choses que l'association aurait aimé voir pour qu'il y ait plus de cours en français à l'université. Finalement, l'association aimerait également qu'il y ait une révision de la loi sur les langues qui existent au Yukon depuis 1988. Pardon. Avec le temps, certaines choses dans cette loi-là ne sont plus d'actualité, ça ne fonctionne plus aussi bien qu'on voudrait. Puis la plupart des derniers gouvernements ont seulement une vision à court terme, donc il n'y a pas eu d'amélioration substantielle. Donc l'association aimerait qu'on révise cette loi-là en s'attaquant aux problèmes de fonds qui règnent pour la francophonie au Yukon. Puis, dernier petit détail, je vous indique que lors de cette élection-là, il y a un premier député francophone qui a été élu à l'Assemblée législative du Yukon. Son nom, c'est Justin Ziegler.
Merci pour tout ça, Julien. Bonne semaine.
Merci à vous aussi.